T'as vu l'émission sur les jeunes, là, hier soir?
Non, mais abuser une fois de plus des clichés sur nous, c'est trop naze.
Entre nous, s'ils savaient ce qu'on pense d'eux.
Je te jure. Mais s'ils savaient surtout à quel point ils nous connaissent pas.
À la une, toute ma génération importune. Le gouvernement se sent menacé, yeah. Par la réalité, sont rattrapés, yeah.
Quand je l'allume, je la fume, je la fume et je l'assume.
Je ne me cache pas à la société, non.
Et refuse d'être catalogué.
L'imaginaire collectif conçoit le fumeur de joint comme un dépressif coupé du monde qui passe ses journées sur son canapé à enfumer son salon en regardant des mauvaises séries. Alors pour changer la perception de la consommation de marijuana, nous partageons aujourd'hui ce moment en studio pour discuter un peu de la perception de chacun d'entre nous autour de ce sujet.
On parle de sativa, on parle de weed, de ganja, de marijuana.
Du coup, Saki, tu peux te présenter un petit peu et nous expliquer pourquoi tu as eu envie de venir ici et est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur toi, ton expérience ou tes connaissances par rapport à la marijuana?
Salut. Oui, alors j'ai eu envie de venir parce que j'ai eu plusieurs périodes différentes dans ma vie, des périodes où j'ai consommé... plus qu'à d'autres. J'ai commencé assez jeune et on pourra revenir là-dessus puisqu'on parle justement de l'effet du cannabis sur les adolescents et sur la croissance. Il y a eu des périodes où j'ai fumé beaucoup et quotidiennement, des périodes où j'ai arrêté en reprenant les études par exemple. Et pour moi, ça a été une aide, mais pas que, mais ça a quand même été une aide. Et donc j'avais envie de parler de ces différents aspects-là, que ce soit au niveau de la santé mentale, mais aussi de ma santé physique par rapport à différentes expériences.
Jamy, salut. T'es ici au studio. Alors pareil, un peu, est-ce que t'es consommateur, est-ce que tu ne l'es pas, depuis quand, hein, ton parcours un petit peu par rapport à tout ça?
Oui, alors consommateur, oui, depuis la jeunesse, pareil, ça a commencé assez tôt, éducation qui était déjà baignée un peu là-dedans, donc c'était un peu le chemin à force de le voir, quoi, qui dédiabolisait la chose. Après, je pense que sur les années, dans tous les cas, avec les fréquentations, tout ça, ça s'est fait qu'on s'est tous fait une bulle, on était un peu là-dedans, tous dans un ensemble. Mais ouais, ça fait un moment quand même et on va un peu éclaircir les choses par rapport à ce qui peut pour moi être négatif et ce qui peut avoir aussi un côté exutoire et récréatif de la chose, quoi.
Merci. Nathan, salut.
Salut.
Alors vas-y, dis-nous tout.
Moi je suis là, pareil, j'ai eu plusieurs périodes dans ma vie, je vais peut-être un peu répéter ce qu'ont dit les autres, mais il y a des périodes dans ma vie où le cannabis a été néfaste, et il y a eu d'autres périodes où le cannabis m'a été utile, pareil, physiquement et mentalement sur certaines périodes, et du coup ben, je suis là pour parler aussi de mes expériences et de mon vécu par rapport à ça.
Bah merci en tout cas à vous d'être là ce soir pour parler de tout ça. Sinon, en soi, du coup, avant de parler surtout des expériences que vous avez eues en tant que consommateur ou pas, à quel moment vous avez surtout commencé à entendre parler du cannabis, de la marijuana, de ce que c'était, des interdictions, etc.
Moi, personnellement, je devais avoir, je sais pas, 13 ans, quelque chose comme ça. J'avais quelques connaissances qui fumaient. Et moi, je commençais à fumer des cigarettes à ce moment-là. Et pour moi, le tabac, tout ce qui était relatif à la fume, mais vraiment la clope y compris, c'était un grand, grand interdit avec ma mère. Donc en fait, on n'en parlait pas. Et je pense que ça, c'est un problème. Je pense que c'est qu'il y a un manque de communication par rapport à ça. Bon, c'était pas une consommation excessive, je dirais, mais ça m'a fait du bien. Après, j'étais jeune, donc j'étais assez influençable aussi. Et comme il n'y avait pas eu de communication, je ne savais pas forcément trop comment gérer ça. Je savais pas, je pense, les effets à long terme. Je savais que ça défonçait, entre guillemets. Je savais pas ce que ça voulait dire exactement, mais ouais, c'est à peu près tout, quoi.
Est-ce que le manque de communication, ça c'est une question un peu pour tout le monde, mais vous pensez que genre il est vraiment présent, non seulement parfois par rapport à la famille, parce que la famille a une idée taboue là-dessus, donc elle a même pas envie d'évoquer le sujet avec nous, ce qui est dommage parce que c'est quand même bien d'être informé, même sur les choses négatives. Ouais. Est-ce que pareil à l'extérieur, vous pensez qu'on est assez informé et sensibilisé sur la consommation
Je trouve qu'il y a des sensibilisations, mais qui sont souvent faites par l'éducation nationale, enfin par le système scolaire, mais qui sont pas, qui disent une chose, bah le cannabis c'est mal, du coup faut pas en fumer parce que ça va te défoncer et qu'après tu vas plus être pareil.
Sauf qu'auprès des adolescents, c'est exactement ça qui donne envie de tester.
Tout à fait.
Et il y a toujours, mais ça c'est le cas, c'est le cas pour le cannabis, mais pour aussi d'autres choses. Mais en fait, la communication qui se fait au niveau des campagnes de sensibilisation dans les écoles, par exemple, au collège, tout ça, je sais pas si t'en as eu, moi oui, je sais que ça s'est mis en place de plus en plus, c'est toujours très axé sur le négatif. Et je trouve qu'on devrait nous dire, bah voilà, il y a telle et telle et telle raison pour lesquelles certaines personnes aiment fumer du cannabis, pour lesquelles ça leur fait du bien. On peut l'utiliser de telle et telle manière, mais il se passe ceci, cela. Et ça créerait un équilibre, une balance en fait, qui ferait qu'après chacun peut faire son choix, même si à cet âge-là on est quand même relativement jeune pour faire des choix en toute connaissance de cause. Mais marteler à un adolescent l'interdit, interdit, interdit, ça donne juste envie d'aller se frotter au feu en fait.
Elle est utile dans le textile ou pour en faire de l'huile, dans la construction et dans l'agrocarburant, sous la symphonie thermique et même dans les cosmétiques, dans la papeterie, je m'arrête ici.
L'école a pas ce rôle-là, je pense que c'est aussi les parents qui peuvent prendre ce rôle comme moi je l'ai vécu et qui vont amener une sorte de situation de confiance entre toi et eux, qui fera que t'as pas envie de les décevoir mais qui te laisseront quand même faire tes expériences. Contrairement à te dire c'est un interdit, il faut pas le faire et tu vas y aller directement, la plupart des gens, je pense que beaucoup de gens qui se retrouvent à fumer à l'heure d'aujourd'hui, alors qu'ils n'étaient pas du tout partis pour faire ça, mais juste par l'influence des copains, de ceci, de cela, quoi. Donc je pense qu'il faut arriver à amener cette histoire de confiance, en fait, qui fait qu'il y a un dialogue qui se crée autour de ça, et que derrière, eh ben, t'as les outils pour savoir un peu plus ce que c'est, quoi. Mmh. Et t'as envie de t'y intéresser d'une autre manière, je pense. Moi, la première fois que par exemple, j'ai planté de la marijuana, eh ben, c'est ma maman qui me l'a donné directement, en me disant, bon, ben, voilà, sors de ce système, justement, va pas aller acheter à qui que ce soit tout ce que t'as besoin, fais-le toi, et demande rien à personne et tu verras que ce sera de la meilleure qualité et tu pourras faire tes expériences comme toi tu le voudras, quoi. Mmh. Et je pense qu'en ayant amené un peu ce dialogue entre elle et moi, ça a fait une certaine limite qui a fait que j'ai pu faire mes expériences, mais que c'est pas pour autant que je me suis laissé entraîner dans la chose.
Aujourd'hui, vous pensez tous que vous avez commencé en étant influencé par des gens ou parce que vous aviez envie de faire cette expérience et de savoir ce que c'était ?
Alors, pour ma part, c'est vraiment, je pense que c'est une influence d'amis. Premier, je me souviens toujours, c'est un ami à moi qui est venu avec un pétard chez moi et qui m'a dit viens on fume ça.
Et du toi coup, tu y avais déjà pensé avant à fumer ou à essayer ?
Ouais, je pense que ça vient de moi, mais ça a aussi une influence.
Par rapport au cannabis, je pense que c'est juste le fait d'être dans un contexte. Pour moi c'était ok, ici c'est possible, ici je peux, et en fait j'en avais envie. C'était une période où j'allais pas bien et j'avais besoin d'échappatoire. On m'a pas du tout influencé ou forcé, c'est plus l'inverse en fait, c'était à moi d'aller chercher ça.
T'es pour faire comme les autres en fait. Et du coup bah après tu fais comme les autres, tu fumes, sauf qu'il y a quand même l'addiction qui vient derrière et
Elle figure sur la liste des drogues à la police. Donc si t'en fumes, sache qu'on va t'arrêter pour ça.
Qu'on consomme de l'alcool ou qu'on fume des clopes, on n'est pas franchement stéréotypé ou montré du doigt, mais par contre, on l'est vraiment quand on fume des joints.
Je pense que les fumeurs de cigarettes, j'entends, sont pas forcément stéréotypés, mais sont quand même, enfin, par les non-fumeurs en tout cas, on sent quand même une certaine pression. Ceux qui sont stéréotypés, c'est ceux qui fument vraiment énormément. Ceux qui sont stéréotypés, c'est ceux qui boivent vraiment énormément. Alors que avec le cannabis, ceux qui sont stéréotypés, c'est ceux qui fument un joint, tout court.
Ça a toujours été considéré comme drogue dans notre société, justement. Ça a toujours été l'interdit depuis les années hippies. Ça a toujours été comme quelque chose de marginal.
Ils arrivent à se faire une marge sur les clopes et sur l'alcool. Pourquoi ils pourraient pas le faire sur le cannabis ?
Les politiques de répression et que dans beaucoup de pays, l'alcool est autorisé, c'est quand même quelque chose de global. En général, c'est rare les pays qui interdisent l'alcool, il y en a très peu et en général, c'est par le biais des religions, quoi. Après, je pense que c'est oui, parce que c'est devenu culturel et qu'on a un bon vin, on a un bon whisky. Et au niveau de la marijuana, je pense que c'est pas considéré pareil, dans le sens où depuis le début, justement, ça a été considéré comme... Enfin, je dis depuis le début, depuis que ça a été quelque chose de social, et ben ça a été considéré comme quelque chose qui était lié à des personnes marginales et donc qui est devenu interdit, en fait.
Tu parlais de bon vin, et en France, on a du bon vin et c'est autorisé, et donc à Amsterdam, ils ont de la bonne weed et c'est autorisé,
par
du
exemple,
coup.
Par exemple.
Je trouve que... personnellement, je suis pas pour l'interdit, même au niveau de l'État. Mais quitte à interdire, ben, je trouve qu'on devrait interdire l'alcool aussi. Ou en tout cas le limiter, parce que ça fait des ravages de ouf. Pourquoi l'un pas l'autre ? Est-ce que l'alcool est prouvé comme ayant des bénéfices sur la santé ? Et l'addiction à la weed, je ne l'ai jamais vraiment sentie. Et ça m'a jamais saoulée. L'année dernière, j'ai arrêté. Je pensais que ça allait être dur. J'ai arrêté parce que j'ai repris des études. Et ça ne m'a pas posé de problème.
Encore une fois, la drogue qui crée le plus dépendance, c'est pas du tout la marijuana, quoi. Genre, plus le tabac, justement, dans nos joints. Je pense qu'on est tous d'accord pour se dire qu'on a tous eu nos périodes où on a arrêté de fumer, et c'est pas pour autant qu'on n'a pas survécu à ça, quoi.
Pour moi, ça fait 2-3 ans où je fais des périodes où pendant 3-4 mois, je fume pas, puis je me remets à fumer. Puis je refume pas, puis je me remets à fumer, mais par contre je continue les clopes.
Ouais.
À chaque fois je continue les clopes, quand j'arrête la marijuana, je continue les clopes parce que effectivement, comme disait Saki, c'est le tabac auquel on est accro et pas forcément la marijuana.
Je pense que ce à quoi on devient accro, comme tu disais, c'est
l'effet.
C'est l'effet. En fait, c'est le ressenti.
Selon ton état d'esprit, peut-être ami ou ennemi.
Je parlais d'échappatoire tout à l'heure. Et il y a des personnes. Je pense que la marijuana, c'est consommé notamment par des personnes, par exemple, hyperactives ou qui ont beaucoup de stress, beaucoup de perfectionnisme ou quoi. Et que c'est peut-être seulement ça qui va les faire arriver à se relâcher et à arrêter de penser à toute vitesse là-haut. Et ça peut être aussi pour s'échapper d'une certaine tristesse, tout comme l'alcool. Et donc l'addiction peut-être plus menée par un mal-être qui, de toute façon, est là sans le cannabis à la base.
En soi, pour revenir sur l'anxiété et tout ce qui est nerveux, etc., il y a bien une enquête qui a été menée auprès de 8000 personnes. Et il y a plus de 40% des consommateurs de cannabis qui disent l'avoir utilisé en première utilité pour réduire l'anxiété.
Cas de crise d'angoisse parfois, mais même juste pour un stress général, pour se détendre après une journée, pour moi ça revient à traiter même de l'anxiété. Parce que tu peux faire de l'anxiété scolaire, tu peux en avoir besoin de souffler parce que tu as mal vécu toute ta journée ou parce que tu t'es fait harceler ou peu importe. Je pense que ça vaut même dans les milieux adultes, pas seulement scolaires.
Et puis soyons honnêtes, je pense que n'importe comment, à n'importe quel âge, on a tous ce besoin justement d'échappatoire, comme tu dis, par rapport au boulot ou le stress de la famille ou des problèmes personnels, etc. Et que s'il y en a, c'est pas avec un petit pétou le soir, ça va être avec un verre ou alors ça va être avec du sport ou alors ça va être en mangeant un truc sucré. Mais l'addiction, elle est dans nos vies parce que de toute façon, l'être humain a besoin de quelque chose à quoi se raccrocher. Genre, vraiment, les addictions, elles sont de partout.
Ouais, et après moi je vais revenir sur le fait justement qu'on dit que c'est un exutoire et que ça peut être anti-stress et pour être, on va dire, entre parenthèses, je vais résumer ça, on est bien dans sa peau quand on n'est pas bien en fait, on arrive à trouver un moyen de relâcher tout ça. Et je pense que c'est là, du coup, ça recoupe avec le fait de comment on est informé là-dessus, c'est que moi je sais que ma maman par exemple m'a toujours dit, c'est comme tout, tant que c'est occasionnel, ce sera bénéfique et ça pourra être quelque chose d'agréable. Si ça devient quotidien, c'est là que ça peut devenir un problème. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi, surtout avec les sortes de marijuana qu'il y a à l'heure d'aujourd'hui, parce que c'est pas les mêmes qu'il y avait à l'époque de nos parents. C'est plus des 10% de THC, maintenant ça monte jusqu'à 50%. Je pense que ça peut créer chez certaines personnes justement qui en consomment trop, et moi je sais que j'ai eu des périodes comme ça, à ressentir justement de l'anxiété et à ce que justement l'exutoire il s'inverse en fait.
Oui.
Et que ça devienne une bulle dans laquelle on est qui fait que, ça crée plus, de l'anxiété.
Que t'es
en fait.
Plus capable de supporter le monde autrement aussi.
C'est ça.
Moi, j'y suis tombé dans une consommation excessive et en plus, j'étais seul chez moi et je consommais énormément de cannabis. Et du coup, je me suis enfermé dans un cercle vicieux parce que finalement, je voulais plus voir personne, je voulais fumer mon joint, je m'enterrais dans quelque chose. En même temps, j'avais envie de sortir, mais j'avais la flemme parce que j'avais fumé trop de cannabis. Et du coup, je me suis enterré dans un cercle vicieux. Et en fait, quelque part, j'ai eu une sorte de dépression. Et je pense que le cannabis, ça m'a plus enterré que m'aider à sortir de ce truc.
Si t'en arrives au stade où tu commences justement à fumer tes pétards tout seul et que ça devient quelque chose de quotidien, ça devient plus une drogue sociale, ça devient, comme on dit, ton exutoire, mais vraiment personnel. Et je pense que du coup, tu te crées un monde autour de ça qui fait que ta confiance en toi avec les autres, forcément, elle va chuter. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, je vois.
Après, je pense qu'il peut y avoir aussi des côtés où je parle plus personnellement. Moi, quand j'ai vraiment fait ma connexion avec le cannabis, je vais appeler ça comme ça, à l'époque où vraiment j'ai commencé à aimer ça, et c'était lié justement à autre chose, c'était lié à la musique. Et en fait, tout bêtement, je m'étais acheté un caisson de basse de voiture en plus, pour mieux faire quoi, que j'avais mis dans ma chambre. Et tous les soirs en sortant des cours, en fait, quand j'arrivais dans ma chambre, c'était la première chose que je faisais, c'était je jetais mon cahier de devoir derrière mon lit pour surtout pas regarder ça quoi, parce que ça me mettait pas dans le bon mood, on va dire. Et j'allumais la musique à fond, je mettais le caisson de basse et pouf, je redécouvrais mes musiques parce que je les avais déjà toutes écoutées plein de fois sans avoir fumé. Et les premières fois que j'ai fumé et que j'ai écouté ça, enfin, c'est pas pour rien qu'il existe Pink Floyd et des choses dans le genre, hein, vraiment, c'est parce que ça se prête à ça. C'est que la sensation que j'avais à ce moment-là, et bah, c'était un état de ma bulle et de sûreté et hyper agréable, avec une sensation qui me mettait le sourire jusqu'aux oreilles, juste parce que justement j'avais cet amplificateur de sentiments.
Ouais, c'est exactement ce que je voulais dire. Alors moi, le cannabis, je pourrais trop le qualifier en amplificateur d'émotions. Tu vois, genre, il y a trop de musique, justement, que pareil, une fois que t'as consommé du cannabis, tu les écoutes et tu le ressens tout autrement. Ou genre des films, tu vois, qui t'ont marqué, quand tu les regardes, ça te met dans le truc d'une toute autre manière. Et moi, je pense que c'est vraiment ça qui a créé ma dépendance. C'est ce genre de moment-là où je me suis dit, mais j'apprécie trop ces moments de redécouvrir la musique ou redécouvrir certaines choses en étant high there. So let me smoke. Tu avais l'air de dire, j'ai cru comprendre aussi tout à l'heure, Nathan, que tu disais que ça t'avait aidé.
Physiquement ?
Ouais.
Ouais, parce que quand j'ai eu un accident de voiture, moi je suis un peu contre tout ce qui est médicaments, mais antidouleur. Parce que quand tu regardes ce qu'il y a derrière la boîte et le nombre de drogues qu'il y a à l'intérieur qui sont nuisibles pour la santé, et que tu regardes le cannabis, c'est un antidouleur, et j'ai fumé, ça a été mon antidouleur. Je n'ai pris aucun antidouleur, et ça m'a permis justement de m'aider à sortir de ce pas et de plus avoir mal.
Du coup, tu as quand même eu des prescriptions au moment où tu es sorti de l'hôpital, tu es censé diminuer progressivement.
J'ai pris tous les médicaments, mais je ne les ai pas consommés. Je ne prends jamais de Doliprane, je ne prends jamais d'antidouleur. Sauf pour le mal de tête, parce que c'est pas conseillé le cannabis pour le mal de tête, enfin ça empire la chose.
Je sais que fumer de la marijuana, ça fait des effets différents à tout le monde. Moi, ça me fait beaucoup rire et j'adore ça. Non, mais c'est vrai. Je
rappelle que rire est très bon pour la santé.
Oui.
Du coup, là, si vous trois vous deviez faire genre un petit récap des choses positives que la marijuana vous a apportées et des choses négatives que la consommation a engrainé sur vous, du coup.
Alors, pour le positif, moi je commence par le positif. Au niveau des sensations, comme j'en parlais tout à l'heure, que ce soit auditif, au toucher, au goût aussi. Après, comme je disais, la musique, ça, sans équivoque, c'est obligé dès qu'on va en concert et que bah, c'est tout simplement, on va voir Cypressil en concert et on fume un pétard, voilà, on est là-haut quoi. On est tout là-haut. Côté négatif, c'est ce dont je parlais tout à l'heure pour moi, qui est vraiment s'enfermer dans une espèce de bulle qui fait qu'on est plus souvent défoncé que pas défoncé, et que du coup, ben, forcément, derrière, on perd une partie de notre personnalité, en fait, au final, j'ai envie de dire.
Je suis d'accord avec ce côté négatif-là, le fait que ça puisse donner la méga flemme, et que certaines personnes puissent s'enfoncer là-dedans et même s'en servir un peu comme excuse, même si c'est rarement seulement ça le problème, mais ça aide pas en tout cas. Pour moi, il y a aussi, je pense que ça a quand même joué sur ma mémoire. J'aurais bien aimé être prévenue. Ça m'a quand même aidée au niveau de, comme je disais, la santé physique. Mais en fait, c'est surtout que ça m'aide encore. Ça m'a pas tant aidée jusqu'après l'accident, parce que c'était une période où je fumais pas. Mais moi, j'ai des douleurs que j'aurai toute ma vie qui sont vouées à s'aggraver. Et de temps en temps, pouvoir juste oublier momentanément qu'elles existent, c'est assez incroyable, parce que je me rends plus compte le reste du temps d'à quel point j'ai des douleurs et que j'ai mal tout le temps partout. Donc c'est agréable. Et puis ça me fait rire. Ça me fait rire, et je fais partie de ces gens perfectionnistes et hyperactifs que je décrivais tout à l'heure. Et c'est pareil, ça me permet d'oublier un peu de penser.
Quelque part, moi, je m'en suis servi pour ça. C'est oublier les problèmes qu'il y a dans la vie et ne pas les confronter.
Maintenant, je le considère vraiment comme un outil et du coup, c'est vraiment occasionnel en fait.
Et je pense que justement, le fait, c'est que justement, tu arrives à garder cet équilibre-là, ça fait que le produit a encore de l'effet sur ce que tu en as envie. Tu vois ce que je veux dire?
Oui.
Que si tu le consommerais justement quotidiennement, au final, ça s'estompe, comme toutes les choses. Comme on va reparler de l'alcool. Un alcoolique, quand tu commences à boire, tu bois deux bières, t'es tout joyeux. Au bout d'un moment, si tu picoles plus, sur les années, tu verras qu'il te fera bien plus.
Ouais,
et je pense que c'est pareil pour tout. Donc.
En fait, c'est tout une question d'habitude aussi, je pense. Le cerveau se base énormément sur les habitudes dans la vie pour tout plein de petites actions que tu fais et sur les associations d'idées. Et tu parlais de la musique tout à l'heure et toi, au début, t'as associé le côté agréable de cannabis avec des sensations déculpées quand t'écoutes de la musique. Et du coup, au bout d'un moment, peut-être que musique, c'était significatif de joint. Et après, tu fais, voilà, c'est ça. Et du coup, c'est comme ça que t'associes. Une habitude, c'est assez dur à casser. Et si tu gardes l'habitude et le même genre de routine pendant plusieurs années où effectivement tu continues à fumer, etc.
Ça désamplifie justement ce côté-là que je reviens là-dessus, du fait que comme c'est consommation quotidienne et que ça fait des années, et maintenant pour arriver à ressentir cette même sensation que je ressentais quand j'avais 15 ans avec la musique, et il faut que je la cherche moi-même, et c'est pas forcément en fumant plus ou quoi, il faut que moi-même dans ma tête je me remette là-dedans, alors qu'avant ça venait instinctivement sans même y penser, quoi.
On parle tous un peu avec du recul du coup, parce que là, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc moi j'ai 25, Nathan 26. Il a 26, 25.
Bientôt 23.
Voilà, et du coup on parle quand même de ce sujet-là avec du recul, de l'expérience et les côtés positifs et négatifs. Et en sachant que ça nous a tous à peu près marqués ou un peu guidés aussi dans nos expériences personnelles.
Ouais.
Est-ce que vous pourriez dire que la consommation de marijuana, ça fait partie aussi intégrante de votre personnalité d'aujourd'hui ?
Personnellement, j'ai pas du tout envie de dire ça, mais c'est, je sais pas, l'identité pour moi c'est important et je pense que c'est quelque chose que j'ai pas envie de mettre dans mon identité. Je pense que ça a été dans mon identité au moins à une période et que j'aime pas forcément cette acquis-là.
Est-ce que la personnalité, le caractère que tu as, la fille que tu es venue, elle serait la même si t'avais pas eu cette expérience avec le cannabis ?
C'est différent comme question, c'est complexe. J'imagine que je serais forcément pas la même, mais je saurais pas dire exactement comment. Je pense que ça m'a influencée un peu. Peut-être que ça m'a fait découvrir une certaine force aussi, des moments où moi j'ai dû me pousser au cul pour me sortir de phases où je fumais trop, que ça m'a aidé à réaliser que je voulais pas fumer autant. Et ça, du coup, aujourd'hui, ça fait partie de mon identité, savoir que j'ai pas envie de fumer autant. Donc, dans ce sens-là, c'est bien parce que je préfère avoir fait la mauvaise expérience et maintenant savoir quelque chose de plus sur moi plutôt que juste pas savoir du tout.
Je sais pas si ça m'a influencé, mais ça m'a plutôt été un pont. Ça m'a aidé, ça m'a enfoncé. Du coup, si ça fait partie de mon identité, non, je serais pas la même personne à l'heure d'aujourd'hui.
Bah, identité, personnalité.
Oui, je serais pas la même personne.
Ta personnalité et ta façon de voir les choses ta façon de voir le monde a évolué parce que tu as été un consommateur ou parce que tu es un consommateur de cannabis. Ça a créé un peu une personnalité en toi qui fait qu'aujourd'hui tu as ce genre de vision, ce genre de principe et ce genre de conviction parce que la weed a été dans ton quotidien, tu vois.
Ouais, mais pas que... enfin oui, ça m'a peut-être influencé sur certaines de mes convictions, mais c'est pas pour ça que alors d'aujourd'hui que j'ai ces convictions-là.
Moi, je pense que pour revenir justement sur ce que tu dis du fait que c'est quelque chose de global, je pense que c'est obligé que ça nous influence tous en fait à un moment de nos vies, dans le sens où c'est un milieu. Quand on commence à fumer des joints, on traîne avec des personnes qui fument aussi des joints, qui ont d'autres horizons, d'autres visions du monde, ceci, cela. Et je pense que du coup, ça nous influence forcément parce qu'on sociabilise par les personnes qui sont autour de nous en fait. Ce qui fait la moitié de ce qu'on est à l'heure d'aujourd'hui, il y a l'éducation qu'on a, et l'autre partie, c'est toutes les personnes qu'on rencontre dans notre vie. Et je pense que du coup, en traînant dans ces milieux-là, obligatoirement, ça façonne un peu notre personnalité sur le long terme, surtout si on y reste un moment.
Fumeuse de cannabis, pour moi, c'est un trait de ma personnalité complet, tu vois. Genre, ça rentre clairement dans la personnalité et dans la fille que je suis aujourd'hui, tu vois.
Ouais, mais si t'as cette impression, justement, d'avoir ça en ta personnalité, parce que moi aussi, j'ai déjà pu le dire, ça, et le penser, Est-ce que tu penses, quand tu te dis par exemple, question bête, mais là demain, eh ben, je te dis, il faut que tu arrêtes de fumer, est-ce que tu auras l'impression que tu as une partie de ta personnalité qui va s'enfuir alors que c'est quelque chose qui fait partie de ta vie depuis moins de temps, enfin depuis pas si longtemps à l'échelle de ta vie? Tu vois ce que je veux dire?
Bah, je sais que genre, je serais capable d'arrêter de fumer, tu vois, mais que c'est toute une période de ma vie, voilà, ça fait 7 ans ouais, que je fume, je crois, un truc comme ça. Bah, si demain j'arrête, bah, je dis adieu à une partie, ouais, je ferme la porte à une partie, quand même, pas de ma personnalité, parce que je vais pas changer du jour au lendemain parce que je suis plus une fumeuse, mais ouais, il y a tout un pan de ma personnalité, de ma vie, de ma manière d'être et de ce que je fais qui sera plus la même.
Mais en vrai, moi, je comprends ce sentiment-là par rapport à la clope. Ça ne me le fait pas avec, les joints. Mais ta question, Jamy, de est-ce que tu aurais l'impression de perdre un bout de ta personnalité, bah, ça me fait trop chier de dire ça, mais si j'arrête de fumer juste des clopes, en fait, bah, en vrai, un peu. Et parce que finalement, je pense que j'ai construit ma personnalité, mon identité autour de ça, parce que j'ai commencé tôt. C'est peut-être ça aussi un des dangers du fait de commencer tôt. C'est que finalement, j'ai jamais... c'est un peu hard, enfin pas hard, mais voilà, c'est un peu exagéré, mais j'ai jamais vécu sans, en fait, j'ai jamais vécu sans la clope, parce que bah, finalement, le début de ma vie, en tout cas de ma vie indépendante, de je fais un petit peu plus ce que je veux et tout ça, c'est quand même le lycée, et j'ai toujours fumé, et du coup ça fait partie de, je sais pas, de ma vibe, tous les gens qui me connaissent,
une vibe, et bah, on s'identifie, ouais, à un groupe, ça, à une personne aussi, à un mouvement, ouais, par rapport à ça, tu vois,
ouais. C'est... et ouais, c'est... Enfin, ouais, c'est chiant.
Avec le recul, est-ce que vous regrettez, en tout cas, d'avoir essayé, si c'était à refaire, est-ce que vous réessayerez le cannabis ou est-ce que vous préférez choisir le chemin sans le cannabis?
Moi, je ne changerais pas de chemin parce que tout ce que j'ai fait dans la vie, je l'ai fait pour quelque chose. Et le cannabis aussi, je ne le regrette pas parce que simplement... comme tu disais tout à l'heure, c'est que ça fait partie de ce que j'ai vécu et du coup, je veux pas le changer. Tout simplement parce qu'il faut rien regretter. Et du coup, le cannabis, ça m'a aussi aidé à me construire. Et c'est pour ça que je changerai pas la chose.
Je trouve qu'il y a une différence entre est-ce que tu regrettes et est-ce que si tu te retrouvais d'un coup à l'âge où tu as fumé ton premier pétard, en ayant cette connaissance aujourd'hui,
avec le recul est-ce que tu as aujourd'hui, est-ce que tu irais,
parce que en soi, pour le regret, je suis d'accord avec toi.
Non, vraiment, je changerais rien, enfin okay.
Moi, je parlerais pas de regret, ouais, comme elle dit, je parlerais pas de regret, si c'est plus si on en revenait là et qu'il y avait quelque chose à changer. Et justement, c'est pour ça que je pense que la sensibilisation, ceci, cela doit être mieux fait. C'est que j'aurais peut-être attaqué plus tard. J'aurais attendu d'avoir plus de 20 ans et j'aurais bien aimé qu'on me l'explique et qu'on insiste un peu plus là-dessus sur le fait que bah ouais, jusqu'à nos 25 ans, et pourtant on nous dit hein, mais que notre corps il se développe, notre cerveau aussi, et que bah, si on commence à lui mettre des ch'tards à 15 ans, bah, forcément on n'aura pas... C'est la seule chose que je me dis, c'est que j'aurais peut-être pu aller un peu plus loin dans les pensées, et peut-être même l'émission d'aujourd'hui, elle aurait été encore plus intéressante, tu vois, si j'avais commencé un peu plus tard à fumer.
Et du coup, sachant qu'aucun de vous ne regrette spécialement l'expérience qu'il a eue avec le cannabis, si là, demain, il y a un jeune qui vient vous voir dans la rue et qui vous dit « Voilà, on m'a proposé un joint, j'ai envie d'essayer, je devrais faire quoi ?» Vous lui conseillerez quoi? Non, mais voilà, par exemple, c'est une question. Genre, moi, je sais que j'ai déjà refusé des clopes à des. Enfin, des cigarettes, voilà, ou même des gens, je pense que ça a dû m'arriver, à des gens qui, pour moi, je jugeais trop tôt. Même s'ils avaient peut-être l'âge que j'avais quand j'ai commencé, bah, ça m'est déjà arrivé de leur dire en vrai, désolé, mais j'ai pas envie de faire ça, tu vois.
Savoir pourquoi il en est arrivé là, avoir un joint, pourquoi...
Est-ce qu'il s'est posé les bonnes questions avant? Est-ce qu'il est sûr de vouloir en...
Renseigne-toi en fait, renseigne-toi surtout, si tu veux, viens, on discute, si t'as pas envie de discuter,
si tu veux, on se renseigne ensemble.
Mais voilà, et je suis d'accord avec le fait de dire que nous-mêmes, on a de l'expérience avec ça, notamment parce que les adolescents, ils écoutent pas des gens, des conseils de gens qui... Enfin, ils ont l'impression que
tu reviens aux interdits. Voilà, c'est juste ça, en fait. Non, faut pas le faire et tout, c'est de la drogue, c'est mal, en vrai, fais pas le con.
Il va pas t'écouter. Quand on parlait de sensibilisation, là, les campagnes de sensibilisation qu'il y a dans les collèges, lycées, si le type, au lieu de faire juste son exposé et de partir après, si lui c'était un ancien fumeur ou un fumeur actuel et qu'il nous parlait de son expérience personnelle tout en nous disant aussi les mêmes faits scientifiques et les mêmes trucs qu'il nous dit déjà, mais il aurait beaucoup plus l'attention des gosses.
Ça manque de pédagogie sur ce sujet-là, parce qu'il est tabou justement ou parce qu'il est stéréotypé. Je trouve que la pédagogie et la communication se fait assez mal, quoi.
Les enfants, les ados, c'est beaucoup plus facile de leur parler si tu leur montres que tu leur ressembles, en fait.
Nous, en tant qu'asso, c'est ça aussi le but, c'est de pouvoir faire en sorte que les jeunes puissent en parler librement sans se dire « bon, c'est de la drogue, c'est un sujet que je suis pas censée évoquer parce que de toute façon, c'est illégal. » Donc, enfin, moi, ça m'est déjà arrivé de me poser des questions dessus, mais de me dire « attends, c'est illégal, tu vois, du coup, si je dis à quelqu'un que je consomme de la weed, genre, est-ce qu'il va pas me regarder de travers, genre
ouais. ?» Sérieux ?
Et du coup, je trouve que c'est un sujet où, même si t'as envie d'être curieux, même si t'as envie de poser des questions, bah, t'oses pas forcément... par rapport aux préjugés ou à tout ce que les gens peuvent penser parce que tu fumes quelque chose d'illégal. Ou alors tu tombes sur des gens justement comme nous qui sont prêts à répondre aux questions des jeunes qui se posent des questions sur les drogues. Voilà, voilà.
Tout à fait.
C'est une très bonne conclusion, je pense, de dire qu'effectivement, il y a peut-être des choses à changer plus haut et qu'en tout cas, même à des niveaux plus bas comme nous, il y a quand même de l'accessibilité et qu'on peut quand même en parler.
Il faut quand même pas rêver. J'en profite de vous avoir parce que je suis fier d'être là, je peux vous le dire. On s'en aperçoit peut-être pas, mais vous pouvez pas imaginer ce que c'est pour un jeune d'avoir la possibilité de parler une minute. C'est pour ça que j'avais peur de ne pas pouvoir parler. Parce que ça n'arrive jamais. J'ai peut-être du culot de faire ça, je suis obligé de le faire comme ça parce que je dois faire vite. Ce que je peux vous dire, c'est que la jeunesse se désespère, qu'elle n'a plus d'appui, elle ne croit plus en la politique française, et moi je pense qu'elle a, en règle générale, en résumant un peu, bien raison. Ce que je peux vous dire, c'est que le désespoir est mobilisateur, et que lorsqu'il devient mobilisateur, il est dangereux, et que ça entraîne le terrorisme, la bande à Bader et des choses comme ça. Et ça, il faut que les grandes personnes qui dirigent le monde soient prévenues que les jeunes vont finir par virer du mauvais côté parce qu'ils n'auront plus d'autre solution.